Europe 1.
Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Le concept du bonheur est sans doute le plus complexe à déterminer car le bonheur est un idéal. Pas un idéal de la raison, non, non. Un idéal de l'imagination. Mais alors, après quel bonheur court-on frénétiquement ici et maintenant? Je reçois Luc Ferry, philosophe, qui publie aux éditions de l'Observatoire La frénésie du bonheur. Bonjour Luc Ferry.
Bonjour Isabelle.
Luc Ferry, quelle étrange époque nous vivons. Bon, longtemps on a cru que le grand questionnement d'une vie était « connais-toi toi-même ». Désormais, les gourous du développement personnel, qui tentent de remplacer les philosophes, nous enseignent « exige d'être heureux » et pour ça, « aime-toi d'abord ». Alors quelque chose me dit que les mentors de la psychologie positive, que sont par exemple Fabrice Midal ou Christophe André, ne sont pas forcément vos héros.
Non, en effet, mais c'est pas par méchanceté, c'est simplement, je pense, qu'on s'effondre dans une idéologie qui est d'une rare stupidité. Cette idée qu'on peut atteindre le bonheur en 15 leçons, qui est une idée totalement absurde, mais pas seulement absurde, c'est évidemment mensonger, c'est pas seulement absurde, c'est une illusion totale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de comprendre pourquoi, au fond, la psychologie positive et les théories du développement personnel avaient remplacé les grandes idéologies, les grandes religions du bonheur différé. Pour dire les choses très simplement, dans mon enfance, le bonheur, c'était après. On était, disons, le troisième petit cochon, on est devenu le premier, pour dire les choses de manière imagée. Le troisième petit cochon, il travaille d'abord, il s'amuse après. Le premier petit cochon, il veut tout de suite, il veut le bonheur ici et maintenant, il est dans la frénésie du bonheur et il se fait bouffer par le loup. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les grandes idéologies qui nous promettaient le bonheur après se sont effondrées. Il y en avait deux qui se sont effondrées en Occident et singulièrement en France dans les toutes dernières années.
Disons, le christianisme
et le communisme. Voilà. Les deux grandes idéologies. Pour les chrétiens, le bonheur, c'était après la mort. Le vrai bonheur, c'était quand même après la mort, dans la lumière de Dieu, au paradis. Pour les communistes, c'était après la révolution. Et ça irradiait toute la société. Au fond, pour les enfants, le bonheur, c'était après la classe. Pour les salariés, c'était après la retraite. Pour les communistes, après la révolution. Pour les catholiques, après la mort. Mais on était dans cette idée qu'il fallait d'abord mériter et qu'il fallait d'abord travailler. Et là, comme ces idéologies du bonheur après se sont littéralement effondrées en Europe, je vais vous donner les chiffres, ils sont fascinants, bah, on est dans l'exigence du bonheur ici et maintenant, dans le bonheur tout de suite.
Mais alors, si la Providence avait voulu que nous soyons heureux, elle ne nous aurait pas donné l'intelligence. C'est pas moi qui le dis, c'est Kant.
Oui.
Dans la quête frénétique d'un bonheur promis comme stable et durable, parce qu'il ne dépendrait que de notre sagesse intérieure, de nous. Cette quête, elle est une véritable imposture.
Oui, c'est une imposture totale. C'est l'idée. Alors, on réactive quelques bribes de stoïcisme pour faire bien. Mais cette idée que le bonheur ne dépendrait que de nous, Fabrice Midal, soyez narcissique et sauvez votre peau. Bon, c'est une idée à la fois mensongère et absurde. Parce que la vérité, c'est que dès qu'on aime quelqu'un, on parlait tout à l'heure de nos enfants avant l'émission.
Oui, vous me avant parliez d'entrer
de,
en studio.
Voilà. Vous me parliez de votre
grand-fils. De mon fils et
vous, de vos trois filles. Et moi, de mes trois filles. Il est évident que dès qu'on aime quelqu'un et qu'on n'aime pas simplement son nombril, le bonheur, si une des personnes qu'on aime, nos enfants en l'occurrence, est dans le malheur, s'il est malade, s'il a un accident, bon, ben notre accès au bonheur est totalement carbonisé. Le bonheur, si on veut définir le bonheur de façon non mensongère, c'est simplement la possibilité de la joie, c'est tout. C'est quand je me réveille le matin.
Mais ce serait une joie qui se répète.
Non.
Alors, pour que le concept soit horizontal. Or, c'est impossible.
C'est impossible. Parce que ce que nous vendent aujourd'hui, et encore une fois, c'est évidemment totalement mensonger, ce que nous vendent aujourd'hui les marchands de bonheur, c'est l'idée que comme le bonheur ne dépendrait que de notre nombril, on pourrait accéder définitivement au bonheur grâce à quelques exercices de sagesse avec l'aide de gourous.
Voilà. Bon. Mais alors, Luc Ferry, par exemple, vous devez être très très perplexe devant le bouddhisme.
Oui, j'ai jamais été. Enfin, le bouddhisme est une très grande philosophie, mais tout ça, le stoïcisme aussi, mais tout ça est affadi, tout ça, on en prend quelques bribes pour essayer de vendre sa salade. On a affaire à des marchands de bonheur pour dire oh, je vais vous expliquer comment être heureux parce que ça ne dépend que de vous. Ce qui est évidemment un mensonge.
Mais alors, je reste un moment sur le bouddhisme. Le non-attachement, ou plutôt le détachement des moines bouddhistes, leur permet d'atteindre ce qu'on appelle l'ataraxie, c'est-à-dire une impassibilité béate, sans émotion, sans douleur, loin de tout ce qui trouble et fait vibrer l'être humain. Mais qu'est-ce que l'impassibilité a à voir avec le bonheur ?
Si vous n'êtes attaché à rien ni à personne, moi j'ai beaucoup d'amitié pour Mathieu Ricard, qui est donc, comme vous le savez, un moine bouddhiste, mais c'est un moine. C'est-à-dire que comme il n'a ni femme ni enfant, mm-hmm. il n'a pas de famille, donc enfin il a une famille, mais enfin celle d'avant, pas celle qu'il a construite lui-même. Et donc si vous n'êtes attaché à rien ni à personne,
on est dans une sorte de sérénité indifférente.
Oui, d'une certaine manière. Si c'est le seul moyen d'arriver à l'ataraxie, d'arriver à la sérénité, je n'en veux pas. voilà, ça n'a pas de sens. Voilà, donc, mais je respecte tout à fait ça. Mais vous savez, moine, ça vient de monos en grec, ça veut dire seul. Voilà. Et donc, je n'ai pas envie de vivre seul. Je suis très heureux d'avoir des filles, mais je sais que mes joies et ma sérénité, pour autant que je puisse en avoir, et bien sûr, comme tout le monde, j'en ai, ça dépend intégralement des autres et pas simplement de mon nombril.
Alors, revenons à cette quête frénétique du bonheur. Et d'ailleurs, voilà, elle est dans ce titre, la frénésie du bonheur, quête qui occupe la société actuelle. Oui. Qu'est-ce qui fait que précisément, mais vraiment précisément oui. à ce moment oui. de l'histoire de la oui. civilisation occidentale, autant de gens sont hypnotisés par les théories du développement personnel. Oui. On a parlé tout à l'heure oui. de la religion en Occident, le christianisme qui disparaît. Vous avez parlé des grandes illusions politiques qui promettaient un autre paradis comme le communisme. Mais pourquoi précisément on a le sentiment de cette accélération là depuis une poignée d'années ?
C'est la bonne question. C'est toute la question de mon livre, d'ailleurs. Alors d'abord, je vous donne les chiffres et ensuite la cause est beaucoup plus profonde que ce qu'on croit. Les chiffres, ils sont fascinants. En 1950, je prends 1950 comme point de repère, pour ce qui est du communisme, en gros, l'électorat communiste, c'est pratiquement 30% des Français. Aujourd'hui, le communisme est à 2%. Donc on a vraiment un effondrement de l'idée qu'on va construire une société de bonheur, d'une certaine manière, en tout cas de désaliénation, mais après avoir travaillé à la Révolution. Je ne suis pas communiste, mais au moins, c'était grandiose. Il y a de la grande... Le catholicisme, c'est encore beaucoup plus frappant en France. En 1950, il y a 45 000 prêtres diocésains en
oui.
France. Les
oui.
prêtres diocésains, ce sont ceux qui prêchent dans
les
églises.
Voilà.
Il en reste aujourd'hui 4 000.
C'est-à-dire que, on va dire, les 9 dixièmes des prêtres ont disparu.
Absolument. Et à l'époque, 95% des Français sont baptisés, ils sont 30% aujourd'hui. Notez une chose, c'est 95%, ça veut dire les communistes aussi, on ne sait jamais. voilà. Et donc, ces deux grandes idéologies qui étaient des idéologies du bonheur différé et du travail, si je puis dire, à travailler à la Révolution, travailler à aider les autres, que sais-je. Bon, ces grandes idéologies du bonheur différé se sont effondrées. Et du coup, comme il n'y a plus d'après, comme dit la chanson, oui. il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, oui. c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux.
Le ciel est loin, la vie est courte, en plus on ne vit qu'une fois. Donc au lieu d'apprendre à aimer les autres, on veut apprendre à s'aimer soi-même. Tout ça passe par un narcissisme nouveau.
Ça passe par une déculpabilisation du narcissisme. Encore une fois, il y a par exemple chez Christophe André, il y a un livre de Christophe André que j'ai lu le crayon à la main, donc qui est un des papes de la psychologie positive, qui était psychiatre à Sainte-Anne d'ailleurs.
Oui.
Et il y a un livre qui s'appelle « L'imparfait, libre et heureux » et dans lequel il y a un chapitre sur l'amour de soi. Et il défend cette idée. Écoutez bien, parce que quand je lis ça, les bras m'en tombent des mains, si j'ose dire, pour parler comme Coluche. L'idée, c'est que l'idéal, écrit Christophe André, je ne plaisante pas, ce serait de réussir à s'aimer soi-même comme on aime un de ses enfants.
Ah oui, le fameux concept de l'autoparentalité.
L'autoparentalité. Mais c'est de la folie furieuse.
Alors, on l'entend bien, Luc Ferry. Vous êtes un philosophe. Alors voilà, une question s'impose. Avez-vous le sentiment que vos contemporains, pour la plupart, s'interrogent sur leur destinée et sur la marche du monde ? Ou bien avez-vous le sentiment qu'ils avancent happés par leurs écrans en préférant ne pas se poser les vraies questions ?
Je crois que la pandémie a révélé quelque chose par rapport à la question que vous posez, qui est en effet une excellente question. C'est que quand il y a des ruptures dans la vie quotidienne, et la pandémie a été une incroyable rupture dans la vie quotidienne, puisque vous vous souvenez, on a eu des confinements. On était, d'ailleurs, c'était surréaliste au sens propre du terme, assez comique, puisqu'on se signait soi-même des autorisations de sortie.
Voilà.
Et les gens faisaient des blagues, souvenez-vous, parce que parmi les motifs qui pouvaient justifier qu'on se signe une autorisation de sortie, il y avait par exemple aller promener son chien, vous souvenez de ça ?
Donc tout le monde a acheté un chien.
Alors, il y avait un gars qui avait mis ça sur Internet, c'était très drôle, je le cite, parce que ça fait partie de cette atmosphère d'humour surréaliste, parce que rupture... Il disait, C'est con, moi j'ai une tortue, ça fait 6 heures que je suis dans l'escalier. Voilà. C'était très drôle. Et on faisait des blagues comme ça. Souvenez-vous, on faisait des Zooms et des Google Meet
certes,
pour avoir des.
Mais voilà. Alors les grandes questions existentielles.
Mais justement, on se les pose quand il y a des ruptures dans la vie. C'est-à-dire quand il y a un deuil, quand on se fait virer d'un emploi et qu'on se retrouve au chômage, quand on perd un être cher, etc. Mais là, la pandémie, elle a fait des ruptures dans la vie quotidienne qui fait que les gens se sont mis à se poser des questions, notamment par rapport au travail. Oui, c'est l'origine du big quit et du quiet quit, pour parler en bon français.
Alors, vous allez nous expliquer précisément ce que c'est.
50 millions d'Américains ont quitté leur job pendant la pandémie. 50 millions.
Hallucinant.
50 millions, c'est
sur
pas
300
rien,
millions
quand
même. Voilà,
c'est quand même gigantesque. Ouais. Et chez nous, c'est pratiquement 1 million. Et donc, écoutez bien le chiffre, 47% des Français disent pratiquer ce qu'on appelle en bon français le quiet quit, on a traduit par démission tranquille. Autrement dit, je garde mon job quand même parce que j'ai besoin du salaire à la fin du mois, mais j'en fais le moins possible. C'est ça le quiet quit, le quiet quitting. Et donc, on a un rapport au travail qui s'est littéralement effondré. Ça vient du fait que les gens se sont dit, d'ailleurs, on peut parfaitement le comprendre, ça n'a rien de ridicule, puisque je n'ai qu'une seule vie, puisque je ne crois plus à la résurrection de Lazare, à une deuxième vie après la vie, si je puis dire, alors c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux. Donc, si mon job, mon travail ne me plaît pas, je ne vais pas perdre ma vie pour la gagner. C'est ça qu'on a vécu. Regardez aujourd'hui, Gabriel Attal, ça a mis d'ailleurs un certain nombre de mes amis chefs d'entreprise absolument hors d'eux. Gabriel Attal a dit, on va essayer d'aller vers la semaine de 4 jours. Voyez, parce que au fond, il y a cet immense mouvement de quiet quitting ou de big quit, donc de démission tranquille où carrément on quitte le job parce qu'on ne veut pas perdre sa vie pour la gagner, parce qu'on a un travail qui ne plaît pas, qui n'est pas reconnu socialement, qui n'est pas très bien payé, qui n'est pas très bien valorisé. Bon, donc on quitte son travail, on va essayer de faire autre chose par tous les moyens. Et donc, on essaye de répondre à cette crise du rapport au travail, mais qui est liée encore une fois au fait qu'on n'a plus de deuxième vie, en disant « bon, on va essayer d'arranger les choses, on va essayer de faire le télétravail, on va essayer de faire de concentrer les 35 heures sur 4 jours et pas sur 5 jours, comme ça les gens pourront s'occuper de leur famille, de leur vie privée. » Donc on vit une crise du rapport au travail qui est incroyable.
On peut faire ça uniquement dans une société qui vous protège.
Ah évidemment. Attendez, voilà. En Chine,
il n'y a pas de quoi être quitte.
Non, là, on hurle de rire quand on entend que pour les Chinois, les Européens sont en train de se tirer une rafale de mitrailleuse dans le pied. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un vrai problème. En même temps, je comprends tout à fait ça. Je ne suis pas un moraliste, je ne jette pas la pierre. Mais je dis que ce changement radical du rapport au travail qu'on vit aujourd'hui est lié à la déconstruction des grandes idéologies du bonheur différé. Avant, le bonheur, c'était après. On travaillait d'abord, on jouissait après. Maintenant, s'il n'y a plus de deuxième vie, c'est ici et maintenant. D'où le psychodrame sur la réforme des retraites, par exemple. Ça a été hallucinant. Vous savez, en 1900, l'espérance de vie des Français est de 45 ans.
Oui.
À ma naissance, en 1951, hélas, je suis déjà un vieux mammifère, l'espérance de vie n'est que de 62 ans. Aujourd'hui, elle est de 80 ans pour les hommes et 85 ans pour les dames. Et donc, du coup, on a une espérance de vie beaucoup plus longue. Et du coup, il est évident que dans un système de retraite par répartition, on est obligé de cotiser beaucoup plus longtemps. Sinon, le système n'est pas pérenne. Il est pas financé. Donc, cette espèce de psychodrame autour de l'idée qu'on va travailler 2 ans de plus. Moi, j'ai 73 ans, je travaille 10 heures par jour. Bon, d'accord, je ne suis pas mineur de fond, mais enfin, quand même. Et donc, je voyage sans arrêt. Bon. Et donc, 64 ans, pour moi, c'est jeune aujourd'hui. C'est pas vieux, 60. Alors, évidemment, c'est vieux si vous êtes mineur de fond, si vous êtes sur votre marteau-piqueur à faire des travaux pénibles, c'est vieux. Mais il y a quantité de métiers dans lesquels, aujourd'hui, 64 ans, c'est pas vieux.
Alors, revenons à un autre sujet de ce livre, La frénésie du bonheur. Dites donc, Luc, vous allez vous faire de sacrés amis parmi ceux que vous désignez comme les coachs autoproclamés, on pourrait dire d'ailleurs les marchands des recettes
du bonheur. Oui.
Mais oui.
Ça marche,
voilà
ça
qu'on
marche,
a évoqué au début de cette conversation. Parce que si on prend le business du développement personnel dans son ensemble, c'est-à-dire
c'est
les
des milliards
bouquins,
de dollars.
Voilà, oui. Les vidéos, les stages, oui, les livres, les conférences, le marché de tout ce qui est holistique, comme par exemple le yoga, et puis les sites en tout genre sur les réseaux sociaux.
Les croisières du bonheur, enfin,
voilà.
Partout.
Des milliards.
Ah, c'est des
de
milliards,
dollars.
Des milliards et des milliards. Au total, c'est des centaines de milliards de dollars.
Mais alors, voilà. Où ça devient dangereux, c'est que l'industrie du bonheur s'accompagne dans nos sociétés occidentales du phénomène de déconstruction, déconstruction et
cause.
Décroissance.
C'est la cause. En fait, c'est très curieux cette histoire, parce que la grande question, c'est quand même la question de savoir pourquoi les grandes idéologies, que ce soit le communisme ou le christianisme, pourquoi ces grandes idéologies ont-elles été déconstruites dans les 50 dernières années en Europe ? C'est avant, encore une fois, je donnais les chiffres, 45 000 prêtres en 1950, 95% de Français baptisés, donc, et on allait à la messe. Bon, voilà. Donc, pourquoi cette grande déconstruction et 30% de Français communistes bon, ou sympathisants du communisme. Bon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, la grande erreur de la droite, des intellectuels de droite, par exemple, je me souviens de Patrick Buisson, j'ai eu cette discussion avec lui, ils disent tous « c'est 68 », mais ce n'est pas vrai. Là, il faut être lucide. La vérité, c'est que la grande déconstruction des valeurs traditionnelles, quelles qu'elles fussent, la grande déconstruction, c'est le fait du capitalisme moderne. Pourquoi ? Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante qu'on vit aujourd'hui. Rien ne freine autant la consommation que les valeurs traditionnelles. Plus vous avez des valeurs traditionnelles dans la tête et dans le cœur, moins vous avez besoin d'aller faire les courses sans arrêt et d'acheter tout et n'importe quoi. J'étais très ami avec Sœur Emmanuelle, c'était vraiment ma meilleure amie, enfin dans cette classe d'âge.
C'était, et alors là, vous allez évoquer la frugalité absolue.
Mais évidemment. Et Sœur Emmanuelle me disait toujours, mais tu sais, elle me disait, Luc, avec sa petite voix, j'ai que deux robes, j'en ai une pour la semaine, une pour le dimanche. Et quand j'ai fait vœu de pauvreté, mais j'étais enfin libéré, j'avais plus besoin de me chercher de l'argent, d'essayer de consommer, etc.
Vous pourriez faire votre pauvreté, Luc Ferry ? Certainement pas.
Non, ce n'est pas exactement ma tasse de thé, mais je trouve ça très intéressant de voir que les valeurs traditionnelles, c'est ce que Freud appelait la sublimation. Quand vous avez des valeurs très fortes, spirituelles, morales, même esthétiques d'une certaine manière, si vous avez des valeurs très fortes dans la tête et dans le cœur,
vous pouvez être dans une forme de résistance.
La consommation. Bien sûr, mais même pas, vous n'avez pas besoin de consommer. Et encore une fois, je ne suis pas un traditionaliste, ce n'est pas le problème, je dis simplement qu'il faut qu'on réfléchisse. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et si vous voulez, il y a un sujet qui m'inquiète beaucoup, alors que je ne suis pas inquiet de nature, c'est que au fond, les deux tiers du Sud global aujourd'hui nous détestent et nous regardent comme un Occident qui s'effondre dans la connerie de la quête frénétique du bonheur. Quand vous allez en Chine, quand vous allez en Russie, quand vous allez même en Argentine ou au Brésil, ces gens nous regardent comme un continent qui est en train de s'effondrer dans le désenchantement du monde et dans la décadence. Regardez même ce qu'écrivent certains de mes collègues comme Michel Onfray ou comme Alain Finkielkraut. Ils ne cessent de dire on est en plein déclin, on est en pleine décadence. Voyez. Et donc, c'est exactement ce que pense Poutine ou ce que pense Xi Jinping. Voyez. Et ça, c'est très grave parce qu'en effet, on est en train de
s'enfuir.
Mais ils n'ont pas tort, hélas. On s'enfonce dans la connerie absolue de la quête frénétique du bonheur.
C'est passionnant. On fait une pause très, très courte. On retrouve tout de suite sur Europe 1, Luc Ferry.
Europe 1, 13h, 14h. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Je reçois le philosophe Luc Ferry qui fait paraître aux éditions de l'Observatoire La frénésie du bonheur. Luc Ferry, vous êtes le fils d'un homme fou d'automobile, ingénieur et pilote de course, qui a mis au point, dans le garage familial, ses propres modèles de voitures. Alors, on peut se dire que dans un tel contexte, les quatre frères de la famille Ferry auraient pu choisir un chemin similaire à celui du père. Or, c'est absolument fabuleux, sur quatre fils, trois sont devenus philosophes. En quoi le terreau familial était-il si propice à la philosophie ?
Parce que, d'abord, ma mère, bon, mon père était pilote, et il a eu, comme tout pilote, des accidents en course, et ma mère était tétanisée d'angoisse, donc elle nous a absolument interdit de devenir pilote de course comme l'était mon père. Alors, j'ai attendu très très longtemps pour prendre un volant. J'ai eu la chance de courir beaucoup sur des vraies voitures de course. J'ai eu un très gentil copilote qui était Paul Belmondo, par exemple, qui était quand même merveilleux, un type adorable en plus. Bon, et donc, j'ai eu aussi Thierry Soave, qui était un très grand pilote. Bon, j'ai eu de la chance comme ça. Mais il a fallu que j'attende 30 ans, voire 40 ans, pour avoir pour pouvoir braver l'interdit familial. Bon, mais à la maison, ma mère, qui est vraiment quelqu'un de très spécial, chaque fois qu'on dînait, on déjeunait ensemble, c'était encore une époque où il y avait des déjeuners, des dîners de famille, en tout cas les dîners à tous les
cours. Voilà, de la connexion sans portable.
Voilà, connexion sans portable. Et maman nous faisait toujours réfléchir à table à des grands concepts. Elle disait par exemple, Qu'est-ce que c'est que la différence entre l'orgueil et la présomption ? Vous voyez, des choses assez difficiles. Et on avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, voilà. Et donc, elle nous faisait réfléchir à ça. C'était un peu cette espèce d'éducation chrétienne, mais presque... Elle était
le catéchisme, mais profonde.
Mais très profonde, voilà. Ouais. Et tout ça, en regardant dans les yeux et en essayant de réfléchir à des grands concepts. Je pense que ça nous a énormément marqués. Et très tôt donner l'idée de la réflexion. Et moi, quand mon grand frère a 5 ans de plus que moi, donc quand il passait le bac, moi j'étais encore en seconde ou en troisième, et donc lui, il avait les grands textes philosophiques à lire, et donc il m'a fait lire les grands textes, il m'a fait découvrir par exemple la critique de la raison pure quand j'avais 14 ans, et c'est vrai que je suis tombé là-dessus, sur ce texte de Kant, très difficile à lire, quasiment impossible à lire pour un enfant de 14 ans. Mais ce qui m'a frappé, c'est que c'était ni de la science ni de la littérature. Mmh. Au fond, ça parlait de l'humain, de ce que l'humain a de plus profond, de plus vital, de plus existentiellement important, les grandes questions philosophiques. Bon, et en même temps, c'était ni de la science ni de la littérature. J'aime beaucoup la littérature, je lis beaucoup de romans, je suis passionné par la biologie, mais la philosophie, c'est tout à fait autre chose. Et donc, j'étais très, très surpris par ce type de littérature qu'est la littérature philosophique, si je peux l'appeler littérature.
Voilà. Et ça a infusé en
donc
vous.
Ça, voilà, ça m'a passionné, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de comprendre cette critique de la raison pure.
Mais vous avez quitté le lycée en troisième pour faire jusqu'au bac vos études par correspondance.
Oui,
quelle raison ?
Je supportais pas le lycée. J'ai quitté l'école aussi en CE1. Et donc, voilà, ma grand-mère était directrice d'école. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre à lire et écrire grâce à ma grand-mère. Enfin, je savais déjà lire et écrire, mais enfin, continuer les études primaires. Et puis, j'ai quitté en troisième. J'étais au lycée de Mantes-la-Jolie. Et c'était une caserne épouvantable. On avait un sergent. On avait le surgé. Le surveillant général, d'ailleurs qui était un sergent-chef, un ancien sergent-chef, il s'appelait Kilikini. Vous voyez, il donnait au moins 150 paires de claques par jour aux élèves, au moins. Et je me souviens d'un surveillant nous surprenant en train de fumer une cigarette et prenant tous mes petits copains qui étaient là, et il y en a qui sont encore évidemment de ce monde, et je pense à eux, et les aligne et leur fout à chacun une paire de baffes devant moi. Et quand
Zola.
Il arrive à moi, je lui ai dit, vous voyez, j'ai aussi un truc qui s'appelle un poing dans la poche, et si vous me foutez une paire de baffes, vous allez le prendre dans la figure. C'est comme ça que j'ai quitté le lycée en troisième. Mais
alors,
c'était épouvantable. C'était une caserne, mais non, une caserne, c'est formidable à côté. Et on avait affaire à des fous furieux.
Au pensionnat anglais du 19e.
Au moins 150 paires de baffes par jour.
Au secours. Luc Ferry, étudier à la maison, ça implique tout de même un engagement exceptionnel de la part de l'ado que vous étiez comme des parents.
J'avais fait un deal, c'est pour parler très mal, pardon. J'avais fait, je ne sais pas comment on dit en français, j'avais passé un contrat avec mes parents. Je leur avais dit, mais si vous me permettez, si vous m'offrez cette chance inouïe de faire mes études par correspondance, en échange, je vous promets que je ferai sérieusement le travail qui me sera demandé. C'était chaque quinzaine par les professeurs qui vous envoient des cours qui sont imprimés, c'est dactylographié. Bon, ils vous envoient des cours et puis vous avez dans chaque matière, tous les 15 jours, un devoir à faire, une dissertation, un devoir de maths, de physique, etc. Bon, et donc, j'ai promis en échange qu'on me libère de ce lycée effroyable. J'ai promis à mes parents que je...
Et vous avez tenu.
Oui, j'ai tenu, oui. Et puis, alors, quand j'ai passé le bac, c'était en 68, donc de toute façon...
ne vous imagine pas sur les barricades, Luc Ferry.
Non, j'étais gaulliste, évidemment, parce que...
Papa.
Oui. Mon père s'est évadé 4 fois des camps nazis, vous savez, il a vu des choses irracontables. Et évidemment, dans ma famille, il était... Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Danny Cohn-Bendit d'aujourd'hui. Mais à l'époque, non. Et l'idée que Danny Cohn-Bendit eût pu prendre la place ou virer le général de Gaulle, non. Désolé.
Oui, et puis les slogans, c'est autre chose, oui. CRS, voilà. SS, bon, votre père savait ce qu'étaient, hélas, les SS.
Attendez, si les nazis avaient été des CRS, c'eût été la meilleure nouvelle du monde. Et si les CRS avaient été des nazis, ça se saurait. C'était les compagnies républicaines, enfin... Non, 68, je ne pouvais pas. Et en plus, moi, j'ai commencé mes études en France en 68. Après, je suis parti en Allemagne parce que là aussi, j'en pouvais
mais
plus.
Mais il y a eu aussi l'Université de Paris-Sorbonne.
Oui, au
peut-être
début, mes deux premières
avant,
années. Oui.
Voilà, mais alors, comment s'est déroulée justement cette arrivée, vous, qui aviez étudié uniquement à la maison, jamais immergé dans un univers estudiantin, mais ça devait être
C'était
un électrochoc.
J'étais baroque, oui.
Vous étiez baroque.
Oui, j'étais à côté. Enfin, j'étais hors du monde. J'étais hors du monde. J'ai eu la chance de rencontrer deux professeurs merveilleux, hein, et toujours en vie, il s'appelle Heinz Wissmann, qui m'a envoyé en Allemagne par le Deutscher Akademischer Austauschdienst, c'est l'office d'échange franco-allemand. Donc je suis parti faire mes études en Allemagne. Heinz Wissmann est toujours de ce monde et ça a été un très 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 grand professeur. Et un autre professeur à qui je dois tout, qui est Jacques Rivelaigle, qui maintenant, dont j'ai édité les cours chez Grasset, qui sont géniaux, ceux qui ont envie de faire de la philosophie et qui nous écoutent.
Jacques Rivelaigle.
L'eau, ça veut dire. Et voilà, j'ai eu deux professeurs absolument merveilleux et ça, ça a été une chance inouïe. Et puis ils m'ont envoyé en Allemagne, j'ai continué mes études en Allemagne, à l'université de Heidelberg, qui était formidable.
Alors, Luc Ferry, vous avez obtenu l'agrégation de philosophie en 1975 et l'agrégation de sciences politiques en 1982.
Oui.
Mais après avoir beaucoup enseigné et publié, eh bien, voilà qu'on vous retrouve au début des années 90 dans les sphères politiques, vraiment à des postes d'importance, hein, parce que par exemple, 94, vous devenez président du Conseil national des programmes au ministère de l'Éducation nationale. Bon, un philosophe est forcément un politique.
Écoutez, j'ai cette idée que d'abord tous les philosophes des années 60 se sont engagés en politique. Foucault était maoïste, Althusser était au Parti communiste. Bon, pratiquement tous les intellectuels de cette époque étaient engagés à l'extrême gauche.
Voilà.
À l'extrême
gauche. Peu de philosophes
à droite.
Communiste,
maoïste, trotsky, etc. Tous les profs que j'ai eus à Sancy étaient à l'extrême gauche. Quasiment tous. Bon, passons. Non, il y a cette idée à laquelle je tiens beaucoup. Quand je regarde les philosophes de ma génération, je pense par exemple à des intellectuels comme Alain Finkielkraut ou comme Michel Onfray, par exemple, à Pascal Bruckner, à André Comte-Sponville, que j'aime beaucoup, qui est un très très grand ami, à Gilles Lipovetsky. On a tous en commun, quels que soient nos désaccords, par nos divergences de vues, on a tous en commun, au fond, d'être des adeptes de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire de cette idée que le rôle des intellectuels, c'est d'éclairer le débat, y compris, bien sûr, le débat politique.
Et être une sorte de sentinelle.
Oui. Alors, je ne vais pas être prétentieux, ce n'est pas ça. Mais essayer de faire en sorte d'écrire... Par exemple, mes livres sont lisibles. Voilà. Alors que, bon, comme vous aviez la gentillesse de le rappeler, j'ai passé deux agrègues, un doctorat d'État, j'ai enseigné à Ulm, à la rue d'Ulm, la préparation à l'agrègue. Bon, j'ai été le plus jeune prof de philo de France à l'époque, quand j'étais gamin, j'avais 30 ans. Bon, à l'université, je vais être prof d'université, je ne parle pas du lycée. Bon,
mais ce qui vous importe, d'être audible.
Oui, mais tous, quand vous lisez Onfray, il est lisible. Vous lisez Finkielkraut, il est lisible. Vous lisez Bruckner, il est lisible. Vous lisez Lipovetsky, Comte-Sponville, il est lisible, il est audible. Voilà. Et au fond, on partage ça, cette idée qu'il y a une nouvelle Aufklärung, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel âge des Lumières dans lequel le rôle des intellectuels, et encore une fois, quoi qu'on puisse avoir comme divergence entre nous, eh bien, c'est pas de garder pour soi la connaissance, c'est de partager avec les autres. Voilà. Et donc, parce que je pourrais très bien, quand je faisais un cours d'agrègue à Ulm sur Heidegger ou sur Nietzsche, je pouvais très bien alors être totalement imbitable pour le grand public. Je sais faire aussi.
Je vous remercie, Luc Ferry, de ne pas être imbitable pour
ça
nous
aucun
aujourd'hui.
Intérêt. Ce qui m'amuse, c'est de partager avec les autres et je ne suis pas obligé pour... exposer des idées que je trouve extraordinairement profondes. Si je vous parle de Kant, par exemple, je trouve ça génial. Bon, mais je ne suis pas obligé d'être obscur.
Eh bien, c'est parfait, ça me va très bien. Luc Ferry, de mai 2002 à mars 2004, vous avez été ministre de la Jeunesse et de l'Éducation nationale.
Et de la Recherche et du SUP.
Exactement. Je n'oublie pas, quelques années plus tôt, Claude Allègre, alors ministre de l'Éducation nationale, avait prononcé devant les syndicats d'enseignants cette phrase devenue historique « Il faut dégraisser le mammouth ». Bon, 25 ans se sont écoulés depuis cette phrase et le dossier de l'Éducation nationale n'a cessé de se dégrader pour tomber dans un abîme de problèmes, illettrisme, wokisme, fanatisme religieux. Oui. Le ministère de l'Éducation nationale a vraiment tout d'une grenade dégoupillée, hein.
Non, je pense que c'est très jouable. D'ailleurs, j'ai beaucoup de sympathie
pour... C'est jouable,
oui, bien
dites-vous.
Sûr, oui. Bah, écoutez, moi j'ai fait la seule loi qui a mis un cran d'arrêt à la montée de l'islamisme dans les établissements scolaires. C'est la fameuse loi sur le voile, comme on l'appelle, 2003-2004, que j'ai faite avec l'appui de Jacques Chirac. Je pourrais vous raconter ça... En détail, c'est d'ailleurs très intéressant. C'est les seules conversations intéressantes que j'ai eues avec Jacques Chirac, d'ailleurs, c'était sur cette question-là. Voilà, c'était parce qu'on s'est écouté l'un l'autre et là-dessus, il m'a soutenu à fond et je lui en sais gré. Et donc, c'est le seul cran d'arrêt oui. à la montée de l'islamisme dans les classes, dans les établissements scolaires. Ce n'était pas du tout une loi anti-musulmane, c'était une loi qui était destinée à faire en sorte que les classes ne se structurent pas en communauté religieuse.
Exactement.
On avait 200% des augmentations des actes racistes ou antisémites en France en 2003. Donc, il fallait stopper ça dans les écoles, vous voyez, dans les collèges et les lycées.
Mais voilà. Alors, donc puisque...
Et puis, j'ai mis en place les dédoublements de cours préparatoires pour lutter contre l'illettrisme.
Oui, bien sûr.
Malheureusement, ça a été supprimé alors 15 jours après mon départ. Voilà. C'est pour ça que ça n'a pas marché.
Mais oui, le ministère de l'Éducation nationale est toujours celui, de toute façon, qui est le plus dans la tourmente. Alors, Luc Ferry, si aujourd'hui, en 2024, vous étiez à la manœuvre, quelles sont les trois premières mesures que vous tenteriez de faire passer ?
Les mêmes, je referai immédiatement les dédoublements de CP, de cours préparatoires, parce que 80% des enfants qui n'apprennent pas à lire au CP, au cours préparatoire, donc les enfants de 6-7 ans, 8 ans, 7 ans plutôt, n'apprennent jamais à lire. Voilà. Donc c'est au cours préparatoire qu'il faut diviser les classes pour que la maîtresse ou le maître, avec un assistant d'éducation, puisse faire le rattrapage au moment où l'échec apparaît. Après, c'est trop tard. On ne s'est pas rattrapé après. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait les dédoublants de CP. Blanquer l'a repris. Je pense que le prochain ministre, je ne sais pas qui ce sera, il faut absolument reprendre ça. Donc, pour moi, la première mesure, c'est la lutte contre l'illettrisme, parce qu'un enfant qui manque la marche en CP d'apprentissage de la lecture... il sera en échec toute sa vie. Voilà, en échec scolaire, je veux dire, toute sa vie. Le deuxième point, c'est la lutte contre le harcèlement scolaire, contre la violence scolaire, et Dieu sait qu'il y en a énormément. Et puis, le troisième point, je pense qu'il faut absolument revaloriser la culture scientifique. On a absolument besoin aujourd'hui de culture scientifique.
Alors d'abord, cette question très simple, est-ce que l'écologie implique forcément la décroissance ?
Malheureusement, l'écologie politique, elle est pour l'essentiel favorable à la décroissance, qui est une erreur cruciale, capitale. Donc la décroissance serait une catastrophe, y compris sur le plan écologique, évidemment. Parce qu'il n'y a pas de solution possible aux problèmes climatiques, biomasse, biodiversité, épuisement des ressources naturelles, etc. Il n'y a pas de solution à ces grands problèmes quand on est 8 milliards sur la planète sans passer par des technologies de pointe.
Bien sûr.
Le retour
on sait
à ce qu'on appelle
que les éoliennes ne peuvent pas grand-chose
non,
pour
non,
nous.
Non, c'est pas la solution. Et donc, il faut des technologies de pointe. Si vous voulez, quand Philips invente ce qu'on appelle les LED, c'est-à-dire remplace les ampoules à filaments par des électroluminescentes, Philips fait plus pour l'écologie que tous les mouvements écologistes depuis 50 ans. Voilà, pardon de le dire. Et donc, moi, je défends dans mes livres, j'ai écrit plusieurs livres sur l'écologie, je défends une vision de l'écologie qui s'appelle l'éco-modernisme, qui est passionnante, qui est géniale. Lisez le manifeste écomoderniste. Vous le trouvez dans toutes les langues sur Google, sur Internet. Manifeste écomoderniste, donc rédigé par un prix Nobel américain, un prix Nobel d'économie William Dordaus et par Michael Schellenberger, qui est un militant du climat. Et il y a deux piliers passionnants de cette vision de l'écologie. C'est l'antidécroissance absolue. Écoutez ça, parce que ça, les gens ne le savent pas.
Oui.
C'est l'idée du découplage entre les activités polluantes humaines et puis l'idée qu'on pourrait créer une grande, grande réserve d'absorption des gaz à effet de serre, de reconstitution de la biomasse et de la biodiversité. Écoutez le chiffre. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a 8 milliards d'individus sur la planète, on est 8 milliards de terriens. Or, 4 milliards d'êtres humains vivent seulement sur 3% du territoire de la planète. Ça s'appelle les villes. Et donc, l'idée, c'est que si on faisait vivre les humains, mettons même sur 20% du territoire de la planète, ça supposerait qu'on aménage les villes beaucoup plus intelligemment qu'aujourd'hui, eh bien, les 80% pourraient être massivement utilisés par les États pour faire en sorte que ce soit des réserves extraordinaires de ce que les romantiques américains appelaient la wilderness, c'est-à-dire l'état sauvage, l'état de nature, pour absorber les gaz à effet de serre et faire de la reconstitution de la biomasse et de la biodiversité. Donc c'est ce qu'on appelle
et
le découplage.
Et ça pourrait marcher.
C'est très facile à faire. Si j'étais président de la République pour parler comme dans les hôpitaux psychiatriques, je créerais immédiatement en France au moins 6 ou 7 grandes réserves, un peu comme Porquerolles. Vous connaissez Port-Cros,
oui,
tout le monde connaît
Port-Cros.
Quand vous allez plonger à Port-Cros, mais c'est bourré de poissons. Vous allez, il n'y a pas un endroit en France où vous voyez autant de poissons. Vous voyez des petits requins, vous voyez des murènes, vous voyez des pieuvres, vous voyez toutes sortes des énormes dorades royales, etc. C'est absolument sublime parce que c'est devenu une réserve. Voyez. Et donc, voilà, moi, je créerai quelques... Et en plus, c'est des réserves de beauté aussi, dans lesquelles les humains pourraient évidemment se promener. Mmh. On peut plonger à Port-Cros, ce n'est pas interdit. On ne peut pas pêcher, en revanche. Enfin, si, il y a un pêcheur. D'ailleurs, il s'appelle Ferry, c'est assez amusant. Mais il y a un pêcheur. Mais sinon, voilà. Voilà. Et la deuxième idée, c'est évidemment l'économie circulaire. Ils ont un slogan qui est très intelligent. Écoutez, ça paraît bête, mais ça ne l'est pas du tout. La nature n'a pas de poubelle. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Tout est recyclé.
Tout est recyclé.
Et voilà. Et donc, et en plus, on peut gagner de l'argent en recyclant. Par exemple, Carlos Tavares... Donc le patron de Stellantis, qui est quand même la plus grosse boîte de construction de bagnoles en Europe, le patron de Stellantis vient d'investir massivement dans une usine, je crois italienne d'ailleurs, qui est entièrement consacrée au recyclage des matériaux qui composent une voiture aujourd'hui. Et donc, au lieu d'avoir une écologie punitive, on a une écologie qui permet de gagner de l'argent.
Alors, autre question, Luc Ferry. Derrière le mot « progrès », avant, on entendait « production ». C'est quoi le progrès aujourd'hui, Luc Ferry?
Alors, le progrès, ce n'est pas simplement les avancées technologiques. Il y a beaucoup d'avancées technologiques qui sont nuisibles ou qui ne servent à rien, voilà, et qui sont simplement liées à la compétition entre les entreprises qui veulent innover. Toute innovation n'est pas un progrès. Pour qu'une innovation soit un progrès, il faut qu'elle l'émancipe et qu'elle apporte, je ne dirais pas du bonheur, puisque le bonheur est une idée absurde, il faut un cuit de bulot pour croire au bonheur. On a des moments de joie, on a des plages de sérénité, mais le bonheur comme un état auquel on arriverait pour l'éternité, enfin, ça n'a de sens que dans une optique religieuse, le bonheur. Oui, le bonheur dans une religion, bien sûr. Mais sinon, sur Terre... Ça,
comme dans l'anesthésie.
Mais bien sûr, oui, ou en religion. C'est, moi, je ne suis pas croyant, mais je peux comprendre ça, que les religions nous promettent le bonheur, mais ce n'est pas sur Terre. Bon, donc, j'y reviens. Il faut que, en tout cas, pour qu'une innovation soit un progrès, il faut qu'elle émancipe les humains. Moi, je reste un héritier des Lumières là-dessus. C'est l'émancipation d'abord. Et ensuite, il faut que ça apporte des possibilités de joie. Encore une fois, pour moi, le bonheur, c'est simplement la possibilité de la joie. Là-dessus, on est d'accord, mon ami André Comte-Fonville et moi. Le bonheur, c'est quand je me réveille le matin et que je me dis, aujourd'hui, peut-être que je vivrai des moments de joie. En tout cas, ce n'est pas impossible.
Alors, je peux vous poser une question innocente, pour ne pas dire naïve. Le bonheur, l'homme va-t-il le trouver dans le métaverse? C'est-à-dire dans les mondes virtuels qui vont nous plonger dans une science-fiction accessible avec nos propres avatars.
Voilà, ça va avec tout ce que je décris dans mon livre, c'est-à-dire le passage du bonheur différé à la quête du bonheur immédiat. À défaut d'avoir une belle vie, une vie qui est satisfaisante, vous allez pouvoir trouver dans les mondes virtuels votre avatar qui sera un prolongement de vous-même, pourra trouver... Il faut voir le film de Spielberg qui s'appelle Ready Player One. Parce que, regardez ça, ceux qui nous écoutent. Ça vous permettra de comprendre ce que c'est qu'un métaverse. Ready Player One. Spielberg, comme toujours avec Spielberg, c'est génial. Et donc, votre avatar pourra trouver une seconde vie. C'est pas pour rien que le premier métaverse s'appelait Second Life, une seconde vie.
Ouais.
Vous pourrez trouver ici et maintenant. Alors, moi, je suis vieux et moche, je pourrais être jeune et beau. Je suis noir, je pourrais être blanc. Je suis blanc pour être noir. Je suis une fille, je pourrais être un garçon, etc. Vous pourrez vous construire un avatar de vous-même et qui pourra avoir la vie de rêve, la vie dont vous rêvez. Le problème, c'est que quand vous allez revenir sur Terre, c'est comme après un shoot de cocaïne, le retour au réel sera extrêmement dur. Je suis très, très critique à l'égard de ces métaverses. Mais l'idée, c'est justement de pouvoir trouver une vie bonne tout de suite. Voilà. C'est toujours cette même idée.
C'est la frénésie de l'immédiat.
La frénésie de l'immédiat. Voilà. Et les métaverses vont marcher. Il y en a déjà beaucoup. Decentraland, Sandbox, Roblox, etc. Horizon World, Meta. Donc, les métaverses vont se développer de manière exponentielle. C'est un héritage des jeux vidéo, de ce qu'on appelle en bon français le gaming. Et ça va marcher parce que vous aurez les lunettes Oculus, les écouteurs Oculus. Et vous pourrez, évidemment, vous retrouver en immersion totale dans une île du Pacifique magnifique, avec une jeune fille ravissante à vos côtés ou un jeune homme ravissant à vos côtés.
Vous savez qu'il y a déjà un marché immobilier sur le métaverse.
Mais bien sûr,
hallucinant.
Énorme.
On
bien
peut
sûr.
Acheter des maisons à 3-4 millions de dollars dans des îles virtuelles.
Sur Decentraland, par exemple. Et vous pouvez acheter aussi des œuvres d'art virtuelles, ce qu'on appelle les NFT. Certaines se sont vendues plusieurs dizaines de millions d'euros.
Surréaliste.
Voilà.
Alors, toute dernière question, parce que hélas, on est pressé par le temps, Luc Ferry.
Mais tout ça est dans mon
plus,
livre.
Mais oui, 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 dans votre livre, La frénésie du bonheur.
Non, je dis ça parce que j'ai honte d'être trop rapide.
Voilà, je vous pose cette ultime question. J'avoue qu'on a toutes les chances de se tromper en répondant à ce genre de questions, mais tant pis, je plonge. Quel monde, finalement, allons-nous laisser à ceux que nous aimons?
Alors, pour moi, c'est la grande question. Quand j'étais gamin, la question, c'était à gauche, la question de la Révolution, et à droite, c'était la question de la nation. La France, la France, la France, la Révolution, la Révolution, la Révolution. Aujourd'hui, la grande question, et c'est lié aux révolutions de l'amour dans la famille, c'est la question, quel monde nous allons laisser à nos enfants? Nos enfants, c'est l'humanité qui vient. C'est la question de la dette. Est-ce qu'on va leur laisser une ardoise? C'est la question de l'écologie. Est-ce qu'on va leur laisser un monde habitable? C'est la question de la protection sociale. Est-ce qu'on va leur laisser un État-providence qui est capable de payer la médecine, les tribunaux, les policiers, les profs, etc.? C'est la question de la transition écologique et c'est la question de l'école. Je vais trop vite, mais c'est la grande question.
C'est la question de l'espoir, c'est la question de l'amour.
Mais ça dépend de nous, Isabelle, ça dépend de nous. Et ce qui m'inquiète, c'est que si on s'enfonce dans cette espèce d'imbécilité qui est la quête du bonheur ici et maintenant avec des coachs et des psychologues positifs, etc., si on s'enfonce là-dedans et dans le nombrilisme et devenez narcissique et sauvez votre peau, mais c'est immonde, encore une fois, on ne va pas avoir cette idée que la seule chose qui nous sauve, c'est que l'amour sacralise l'être aimé. C'est la transcendance de l'être aimé, c'est la sortie de soi. Et il faut absolument que cette sortie de soi nous conduise à nous occuper de la question des générations futures avec un peu d'abnégation, un peu de sens du sacrifice.
Eh bien, je suis heureuse que cette conversation s'achève sur l'amour, justement. La frénésie du bonheur, essai absolument passionnant, vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Luc Ferry.
Merci, Isabelle.
Et allez souhaiter
un ange de l'avoir lu. Vous êtes la seule personne qui m'a interviewé qui a lu mon livre.
Allez vite embrasser votre fille et lui souhaiter un bel anniversaire.
C'est ce que je vais faire.
À très bientôt.
Isabelle Morizet sur Europe 1.